puisse accompagner nos enfants. Je vous invite à lire dans le psaume, le livre des psaumes, au premier chapitre, le premier psaume sur lequel nous allons méditer ce matin. Comme peut-être vous savez, j'ai achevé dimanche dernier la série de prédications sur l'épître de Jean. Et là, je vais entamer donc une série sur les psaumes. Mais je tiens à vous rassurer, je ne vais pas prendre tous les psaumes, sinon j'ai encore pour jusqu'à la retraite. Mais on prendra quelques-uns au moins d'ici la fin de l'année, et puis on verra comment le Seigneur conduira les choses. Voilà, je vous invite donc à la lecture du psaume 1. Et tous les enfants normalement sont sortis, c'est le moment de lire la parole de Dieu. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille, de la balle que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour de jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car le Seigneur connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Jusqu'ici, notre lecture. Les hommes veulent être heureux et le rester. C'est Sigmund Freud qui écrit cela. Être heureux, le bonheur, un état tellement recherché par les hommes, et nous faisons plein de choses pour être en effet heureux. Et cela ne date pas ni d'hier, ni d'avant-hier d'ailleurs. Pour parvenir, certains se sont tournés bien sûr à des idéologies, à des philosophies, à des religions, notamment les religions orientales, bouddhisme, y compris en Occident. Pour les religions fondées sur les œuvres, notamment, je pense en particulier à l'islam, le bonheur, surtout, est une réalité, quelque chose qui est réservé pour l'au-delà, pour l'après la mort, après notre vie terrestre donc. Et ça serait une récompense de toutes les bonnes choses et de tous les sacrifices accomplis ici-bas. Et pour la Bible, c'est quoi le bonheur ? Qu'est-ce que le premier psaume que nous venons de lire peut nous apprendre sur le bonheur ? Et surtout, comment pouvons-nous vivre réellement ce bonheur dans notre vie ici-bas, sur la terre, dans un monde marqué par le péché, marqué par la violence et marqué par diverses frustrations et manquements. De même, notre psaume indique clairement que le bonheur, le vrai bonheur, ne se rencontre pas dans une vie d'ascète, c'est-à-dire dans une vie hors société. De la même manière, il indique que le vrai bonheur ne se rencontre pas, ne se vit pas non plus dans une vie sans cadre, dans une vie livrée à elle-même, sans repère, dans une vie sans normes. Notre psaume indique clairement que le vrai bonheur se rencontre dans une vie concrète de tous les jours, et pas simplement dans une réalité à venir, mais dans cette réalité-ci. Et en même temps, il nous dit clairement qu'il se rencontre dans une vie d'obéissance au commandement de Dieu, d'obéissance à la parole de Dieu, dans un cadre que Dieu a donné. Il ne s'agit pas donc de sortir du monde, ni de vivre selon le slogan « mangeant et buvant, demain nous mourrons ». Il s'agit de vivre dans notre monde et à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a demandé d'ailleurs dans sa prière pour ses disciples en disant « Père, je ne te prie pas de les ôter » en parlant des disciples, « je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver, de les garder du mal, en d'autres termes, de les garder à l'écoute et à l'obéissance de ta voix. » C'est au cœur de notre vie terrestre donc que nous sommes appelés à vivre ce bonheur, à être heureux, bien heureux et dans l'obéissance à la parole de notre Seigneur. Heureux l'homme ou bienheureux l'homme, c'est avec ces deux mots que notre psaume commence. Et il ne commence pas simplement le premier psaume, mais à vrai dire tout le livre des psaumes, le psautier, qui est un livre liturgique, c'est-à-dire un livre de chants que le peuple d'Israël utilisait pour célébrer le Seigneur, pour s'approcher de son Dieu, pour acclamer son Dieu, en particulier lors des fêtes religieuses annuelles, je pense à Pâques, à Pentecôte et ainsi de suite. Heureux, un terme qui revient 26 fois dans tout le livre des psaumes pour montrer la voie du bonheur, pour dire en quoi, comment le fidèle, celui qui veut rester à l'écoute de son Seigneur, peut vivre réellement le bonheur. Et en même temps, au passage, il montre que cette voie-là de bonheur qu'il est en train de tracer reste inaccessible, incompréhensible pour celui qui refuse d'entrer dans ce cadre que le Seigneur a posé, c'est-à-dire dans l'obéissance à ce commandement que Dieu a donné. La voie du bonheur, par exemple, dans les livres des psaumes, est présentée comme une réalité qui passe par le pardon des péchés. Heureux celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a plus de fraude. Voici un homme qualifié d'un homme, d'une femme, heureux ou heureuse. Un homme heureux est celui qui a trouvé pardon, le pardon auprès de son Seigneur. Le bonheur passe aussi dans le livre des psaumes par l'intégrité, par une vie intègre, passe aussi par une vie de crainte du Seigneur. Heureux ceux, c'est le psaume 32 que j'ai cité tout à l'heure, hein, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui suivent la loi du Seigneur. Heureux ceux qui craignent le Seigneur. Ou encore, heureux quiconque craint le Seigneur et suit ses voies. Tu jouis alors du produit de ton travail. Heureux es-tu. Le bonheur est pour toi, c'est le psaume 128. Voilà, ainsi de suite, le livre des psaumes nous présente les cadres, les réalités qui font que nous sommes et nous pouvons être heureux. D'ailleurs, par la suite, Jésus va utiliser exactement le même mot, heureux, pour délivrer son premier enseignement dans l'évangile de Jean, le serment sur la montagne, au chapitre 5, dans l'évangile de Matthieu, le serment sur la montagne, à partir du chapitre 5, tout au début, et notre pasteur a consacré toute une série, justement, sur ces béatitudes, ce que nous appelons les béatitudes qui se trouvent au début du chapitre 5 de Matthieu, et vous pourrez les entendre éventuellement si vous êtes intéressé. Heureux l'homme, commence Jésus son enseignement, il commence par heureux. Et pourtant, lorsqu'il déclare des personnes heureuses, il souligne aussi le fait qu'elles sont face à la persécution, qu'elles sont face à toutes sortes de manquements humainement parlant. Heureux l'homme, nous dit notre psaume, sans spécifier qui peut être cet homme heureux, sans dire par exemple que le statut d'homme heureux est réservé uniquement aux prêtres, ou bien à certains qui atteindraient un degré de religiosité, ou encore, quelque chose d'autre. Heureux n'est pas précisé, il n'est pas dit qu'il est réservé uniquement aux prêtres, aux rois, et ainsi de suite. Bien au contraire, la suite de passage nous dit que tout homme, toute femme qui le désire peut être heureux, peut être au bénéfice de ce statut. Il nous présente dans la suite de ce passage le style de vie qui donne, qui rend l'être humain heureux. Cet état de bonheur n'est pas réservé donc à une catégorie de spécialistes ou de particuliers, mais à tous ceux qui veulent entrer dans ce cadre que Dieu offre à l'être humain pour être vraiment heureux. Vivre dans le cadre que Dieu propose est le secret du bonheur que le psalmiste nous présente ici dans ce psaume. Vivre dans le cadre que le Seigneur nous propose est le secret du bonheur selon la Bible. Le cadre que Dieu nous propose n'est pas là pour restreindre nos libertés ou encore et encore moins pour nous priver de bien-être, pour nous priver du bonheur. Bien au contraire, il est là, ce cadre-là est là, pour nous permettre de vivre pleinement notre bonheur, de vivre une réelle et une vraie liberté et un vrai bonheur. Celui qui ne reconnaît pas justement ce cadre, qui le regarde de loin, de l'extérieur, est tenté, peut-être même pourrait penser clairement qu'un cadre que Dieu pose, c'est-à-dire le commandement de Dieu, et pourrait empêcher l'épanouissement de la personne, pourrait être un frein pour l'épanouissement de la personne, pourrait être un frein pour le bonheur de la personne. Quelqu'un de l'extérieur à ce cadre voit que ce cadre limite la liberté, en tout cas peut limiter la liberté de l'individu, et donc l'empêcher de vivre comme il l'entend. Un observateur extérieur est contraire pour lui, il faut se débarrasser de toute forme de cadre pour vivre soi-disant librement et pour vivre son bonheur. Pour mener une vie de bonheur, il faut se débarrasser de toute forme de cadre, y compris du commandement de Dieu. Il me semble que c'est là la différence fondamentale entre le croyant qui, lui, a expérimenté le bienfait de ce cadre de l'intérieur avec celui qui n'a pas encore goûté au bienfait du commandement de Dieu et au bienfait de ce cadre que Dieu nous réserve. Pour rendre un petit peu mon propos plus compréhensible, j'aimerais prendre un exemple simple, qui a bien sûr ses limites, comme tout exemple. Prenons l'exemple d'un pont. Un pont, lorsqu'il contient des barrières des deux côtés, donne la liberté, lorsqu'on est à l'intérieur, nous donne la liberté d'aller d'un bout à l'autre sans avoir peur de tomber, parce que nous savons qu'il y a des barrières de sécurité. Nous pouvons même nous offrir le luxe d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bord, pour regarder et contempler s'il y a des choses à l'extérieur, parce que parfois, vous savez, notre nature nous fait croire toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais bon, donc, il nous donne un cadre et nous pouvons jouir de toute notre liberté et en toute sécurité parce que nous savons que le pont est bien sécurisé. Nous pouvons circuler en toute liberté et découvrir vraiment tous les recoins de cet espace qui nous est donné, de ce cadre qui nous est offert. Par contre, si le pont maintenant, imaginons que le pont n'a pas ses barrières, n'a pas les barrières qui le limitent. Et là, nous allons nous concentrer strictement sur le milieu pour ne pas justement prendre le risque de tomber et surtout lorsque notre vie est en cause. Donc, de faire très attention. Et du coup, notre liberté est beaucoup plus restreinte. Notre liberté est beaucoup plus limitée que lorsque il y a des limites, il y a des barrières qui sont posées. Contrairement donc à ce qu'on peut penser naturellement, le cadre peut permettre une vraie liberté, peut permettre de profiter pleinement de l'espace qui nous est offert et de vivre vraiment le bonheur ou les joies que nous pouvons expérimenter dans ce cadre-là. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a donné un cadre à l'être humain dès la création pour lui permettre de vivre en toute liberté et de vivre un vrai bonheur. En effet, lorsque Dieu a créé la création, Dieu confie à l'être humain la responsabilité de gérer cette création, de gouverner sur la création, sur le monde. Alors, le monde était parfait, harmonieux, sans aucun problème, tout était bon. Même à la fin de ce texte de la Genèse, à la fin de la création était qualifiée de très bonne. Seulement, le Seigneur, il lui demande, il dit clairement à l'être humain de respecter le commandement qu'il lui a donné, à savoir, tu mangeras de tous les arbres de jardin, comme tu veux, et tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Genèse 2. Le cadre dans lequel l'être humain est placé dès le début lui permet de jouir de tous les arbres du jardin, de toute la richesse que le Seigneur lui propose. Et en même temps, il lui dit, quant à la question de la connaissance du bien et du mal, c'est à moi de te donner la définition du bien et du mal. Le Seigneur pose clairement deux limites. D'un côté, tu manges librement. D'un autre côté, tu ne mangeras pas. Pourquoi ces deux limites? Ces deux limites, justement, comme l'exemple que je viens de citer laisse entendre, c'est pour permettre à l'être humain de profiter pleinement de la création de Dieu. Il y a la question du bien et du mal. Cela, il ne revient pas à l'être humain de résoudre cette question lui-même indépendamment de son créateur. Il doit dépendre de son créateur pour savoir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Et de toute manière, qui sait mieux que le créateur ou son créateur ce qui est bien ou mal pour la création? C'est valable pour l'être humain lorsqu'il crée quelque chose, une machine, un robot ou quoi que ce soit. Et il y a toujours des notices qui nous donnent la manière de l'utiliser. Si on a un robot et que dans la notice il nous est dit « Écoutez, il faut l'utiliser à 110 volts. » et que nous on essaie de l'utiliser à 220 volts pour dire je veux être libre d'utiliser n'importe quelle puissance que je veux, et ben on le brûle, c'est simple. C'est pas la vraie liberté. Mais si on veut profiter pleinement de ce fameux robot, il faut le brancher selon la notice qui l'accompagne. Et de la même manière, lorsque Dieu nous a créés, il nous a dit, voici le cadre dans lequel vous pouvez profiter pleinement et joyeusement. Avec ce cadre, Dieu ne veut pas priver l'être humain, surtout pas ça. Il lui a donné tellement de choses, et avec abondance. Plus que cela, il a créé en son propre image. Mais bien au contraire, il veut voir épanoui et être vraiment au bénéfice de toutes ces belles choses créationnelles que le Seigneur vient de créer. Car au début, tout a été parfait, tout a été bon, très bon. L'être humain donc est appelé à vivre dans la dépendance du Seigneur et de recevoir les fruits de la création, y compris ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire la définition de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Mais hélas, l'être humain n'a pas voulu vraiment rester dans ce cadre. En tout cas, il est arrivé un jour, un moment où l'être humain a voulu faire un peu à sa tête, pensant faire les choses peut-être un peu mieux que son créateur. Et c'est ainsi qu'il a décidé simplement de ne plus respecter le cadre que le Seigneur lui a donné. Il a donc décidé d'aller lui-même, de chercher à comprendre ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas, espérant de devenir Dieu lui-même, son propre Dieu. Et à partir de là, la relation bien sûr entre Dieu et l'être humain est brisée. L'être humain entre eux, elle est aussi brisée. Et l'harmonie relationnelle est simplement perturbée, pour ne pas dire gravement marquée. Ces relations qui se compliquent entre l'être humain et son créateur se voient très rapidement dans la suite de la Genèse. Elles se voient aussi entre les êtres humains. La première chose que l'homme fait, c'est d'accuser sa femme en disant « c'est pas de ma faute, mais c'est la faute de celle que tu as mise devant moi ». Et juste après, un chapitre après, on découvre aussi que ce désordre relationnel va conduire deux frères à commettre l'un tuera l'autre. Mais dans son amour, Dieu n'a pas voulu nous abandonner à notre égarement, il n'a pas voulu abandonner l'être humain à son égarement, mais au contraire, il ne veut pas le laisser dans son malheur, mais il veut intervenir et le ramener vers lui, lui donner à nouveau une nouvelle chance pour pouvoir vivre dans le bonheur que Dieu lui offre. Et c'est ainsi que le Seigneur nous envoie sa parole. C'est ainsi que le Seigneur commence à mettre en route tout son plan de salut jusqu'à Christ. Et il a laissé sa parole. Une parole qui permet de connaître justement l'amour de Dieu, que loin de Dieu l'idée de nous priver de quoi que ce soit ou de nous faire passer un test et c'est bien. Mais son objectif, il nous aime tellement qu'il veut que nous profitions pleinement de son bonheur, d'être des hommes, des femmes heureux. Et pour l'être, il nous faut vivre dans le cadre de son commandement et de sa parole. Les deux premiers, c'est ce que le premier verset de ce psaume nous le dit. Et ces deux premiers versets de ce psaume, ils nous disent en effet que le Seigneur déclare un homme heureux. Mais il nous déclare heureux dans le cadre qu'il a posé, qu'il nous propose. Mais ce cadre peut être menacé. Il y a des choses qui peuvent menacer notre bonheur en tout cas. C'est-à-dire nous priver de notre bonheur, nous priver de vivre selon Dieu. Mais il dit aussi au verset 2 les choses qui peuvent nous aider à vivre pleinement et à profiter de plus en plus et davantage jour après jour de ce bonheur que le Seigneur nous donne. Trois phrases sont formées de la même manière, disent avec force les attitudes qui menacent notre bonheur de marcher avec Dieu, notre bonheur de vivre avec Dieu. Et dans chacune de ces phrases, nous avons un verbe, nous avons un complément et un substantif. L'homme, donc ça c'est à côté, et puis les trois phrases, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs. Marcher, se tenir et s'asseoir regroupent les trois activités de chaque journée. C'est ce que nous faisons, soit nous marchons, soit nous sommes debout, encore nous sommes assis. Bien sûr, la nuit, il se posait que c'est la nuit qu'on dort, mais bon. Ces verbes donc décrivent en plus de dire un peu l'activité globale de la journée, décrivent aussi une attitude qui va de marcher jusqu'à s'asseoir, qui va d'un petit début jusqu'à assimiler complètement l'égarement. En effet, ces verbes décrivent une attitude qui va de marcher, de commencer juste à marcher loin du Seigneur, au point de terminer par un style de vie complètement étranger à ce que Dieu nous propose. L'éloignement de Dieu commence toujours, en effet, par des petits erreurs, par des petits éloignements, des petites concessions, par là, jusqu'à nous retrouver dans des influences complètement contraires à ce que le Seigneur nous laisse dans sa parole, à ce que la Bible nous enseigne, des influences qui éloignent du projet de bonheur que Dieu a formé sur chacun de ses bien-aimés, sur chacun de ses enfants. Et si rien n'est fait à cette étape-là, ces petits éloignements vont conduire à prendre simplement plaisir à ce style, à ce nouveau style de vie, c'est-à-dire un style de vie loin de la volonté de Dieu et de sa parole, de son commandement, un style de vie opposé au cadre que le Seigneur nous offre. Et si toujours rien n'est fait, ce style de vie s'installe définitivement dans notre vie et l'éloignement de Dieu devient alors de plus en plus important, pour ne pas dire avec le risque certain qu'il soit un éloignement définitif. Mais là encore, la grâce de Dieu peut faire quelque chose par moment. La grâce de Dieu fait des miracles. Et ces trois expressions donc indiquent ces trois aspects, voire ces trois degrés d'un mouvement d'éloignement par rapport à Dieu. Recevoir d'abord le conseil, les conseils de ce monde, s'associer dans les voies de ce monde, dans les voies dirigées par ce monde, et adopter enfin leur attitude. Et c'est ainsi que nous nous éloignons de plus en plus de l'esprit de repentance qui peut nous permettre à n'importe quel moment de revenir vers le Seigneur et d'être au profit de son amour, de son pardon, au profit aussi de son projet de bonheur et non de malheur qu'il a formé sur son peuple. Nous devons faire attention à notre marche au quotidien pour ne pas céder à ce qui menace vraiment notre bonheur, à ce qui menace notre marche avec Dieu. Fort heureusement, il y a aussi des éléments qui nous rapprochent de Dieu et de ses plans, c'est-à-dire de ses plans de bonheur. Et le psalmiste nous donne, après nous avoir avertis au premier verset, il nous donne maintenant les éléments qui peuvent nous aider à vivre au cœur de la volonté de Dieu, au cœur du bonheur de Dieu pour nous. Il nous invite à méditer la parole de Dieu, jour et nuit, prendre plaisir dans la loi du Seigneur, c'est-à-dire sa parole d'une manière plus générale, et la méditer jour et nuit. Le mot la loi, la Torah, revient ici à deux reprises dans ce petit verset, et cela ce n'est pas pour rien, pour montrer vraiment son importance, pour lui donner un poids. Et le mot loi déjà, il a le poids, mais le répéter à deux reprises, cela montre que le psalmiste veut insister sur la place que la parole de Dieu doit avoir dans notre vie, dans notre cœur, pour que sa volonté, pour que son bonheur pour nous soit accompli et vécu. Trouver son plaisir dans la loi du Seigneur ne veut pas dire que nous n'ayons pas à faire d'efforts pour imiter la loi du Seigneur. Bien au contraire. Plus que nous allons mettre de l'effort pour méditer la parole du Seigneur, plus que nous allons nous faire violence pour méditer la parole du Seigneur, plus que notre bonheur sera grand, plus que notre joie sera grande. L'effort n'est pas du tout en contradiction avec le plaisir que nous devons trouver dans la parole de Dieu. Au contraire, pour y parvenir parfois, il va falloir nous faire violence. Surtout, actuellement, nous sommes tellement distrait par plein de choses, et il y a tellement de choses qui nous attirent pour faire plein de choses, sauf peut-être l'essentiel, nous devons, je pense, nous faire davantage violence d'effort. Et l'effort, comme je dis, ne se pose pas du tout au plaisir, au contraire, à mon sens, plus que l'effort est grand, plus que le plaisir sera grand, plus que la joie sera profonde. La méditation de la parole du Seigneur ne doit pas donc se faire uniquement sur la base de bons sentiments, sur la base des envolées. Un jour, on dit, je veux méditer la parole du Seigneur, et on reste une semaine, trois semaines, sans ouvrir sa Bible. La méditation de la parole de Dieu peut exiger parfois de nous de faire des efforts, une organisation, de dire, voilà, ce temps-là, je l'ai réservé pour le Seigneur pour méditer la parole de Dieu. Une demi-heure, 15 minutes, une heure, une matinée, mais c'est un temps qui est réservé pour cela, et je le passerai pour cela, et je ne laisserai rien, enfin, sauf c'est vraiment qu'il y a urgence, mais je ne laisserai rien me distraire, en tout cas pas les choses futiles de la vie. Le verbe méditer, employé ici dans notre psaume, renvoie très clairement au passage de Josué. Le premier passage de Josué, lorsque Josué était au début de son ministère, il doit prendre le relais de Moïse, bien sûr un relais immense pour Josué, et le Seigneur lui adresse cette parole. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Non, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui s'y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. » Premier chapitre du livre de Josué. Parole que le Seigneur lui a adressée en ce début de son ministère. Le Seigneur ne lui demande pas à Josué simplement de passer des journées, des nuits entières à méditer, à disserter sur la parole de Dieu, très bonne chose, mais à la mettre aussi en pratique. Il est important d'avoir en effet une bonne, très bonne théologie si le Seigneur nous accorde la grâce. Mais elle ne sert à rien si elle n'est pas suivie d'une vraie pratique, si elle ne s'incarne pas dans notre vie, elle ne servira pas à grand chose. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume de Dieu, même si lorsqu'ils disent Seigneur, Seigneur, ils le diront avec la plus grande finesse théologique qui existe. Mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui font la volonté de mon Père qui vont profiter pleinement, pleinement, pleinement de ce bonheur que Dieu veut nous offrir. Le Seigneur Jésus nous invite à ne pas être simplement à ne pas écouter la parole de Dieu, mais avec l'aide de son esprit, à la mettre aussi en pratique. C'est cette obéissance qui permet de connaître Dieu. C'est cette obéissance qui nous met au cœur de la volonté de Dieu pour nous, au cœur de son projet de bonheur pour nous. Et c'est dans cette obéissance-là que nous vivrons ce que tout ce Dieu d'amour a en réserve pour nous. L'apôtre Jacques ne dira pas moins au premier chapitre de son épître, pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement. Il donne un exemple, celui qui écoute la parole et ne la pratique pas est semblable à un homme qui regarde dans un miroir et après s'être éloigné de miroir, il oublie aussitôt son visage. À quoi sert ? Jacques poursuit en disant « Celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, ce n'est pas la loi qui rend esclave, mais c'est la loi de la liberté. » C'est ainsi que Jacques qualifie la loi du Seigneur, la parole du Seigneur. C'est au chapitre 1 là aussi. « Mais la loi de la liberté qui préserve, non pas seulement en l'écoutant pour l'oublier, mais en l'écoutant pour la mettre activement en pratique. » Jacques déclare clairement que c'est celui qui vit selon la parole de Dieu qui est qualifié de heureux. Vers la fin de ce chapitre, au verset 22 et 25, il le qualifie d'homme heureux. Et en d'autres termes, pour la Bible, un homme heureux ne peut vivre que dans l'obéissance, dans la dépendance au Seigneur et l'obéissance à sa parole. Et pour résister aux influences qui peuvent nous éloigner justement de ce bonheur que le Seigneur nous réserve, nous avons besoin de méditer sa loi, comprendre son enseignement tel qu'il nous le donne sur un sujet ou l'autre. Et c'est ainsi que nous pouvons laisser le rôle de Dieu, la loi de Dieu, là encore, réformer, renouveler notre intelligence pour comprendre, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 12, pour comprendre ce qui est bon, agréable et parfait de la volonté de Dieu pour nous. Romains 12. Méditer, mettre en pratique la parole de Dieu ne place au cœur de sa volonté pour nous. Méditer et mettre la parole de Dieu en pratique nous conduisent dans une vie de bonheur, de vrai bonheur. L'homme heureux est comparé, au verset 3, à un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Cela rejoint ce qui a été dit pour Josué. Après avoir dit ce que l'homme ne doit pas faire ou ce qui menace le bonheur de l'homme, après avoir dit ce qui favorise et ce qui permet le bonheur de l'homme, ici, au verset 3, le psalmiste ne décrit ce que l'homme heureux est simplement. Il le compare à un arbre planté près d'un cours d'eau. Le manque d'eau au Proche-Orient ancien, et en particulier en période estivale, souligne la valeur d'un arbre planté près d'un cours d'eau qui a toujours de l'eau pour porter ses fruits. C'est un privilège immense pour un arbre de se trouver à cet endroit-là et de porter ses fruits dans ses saisons et de garder ses feuillages toujours verts tout au long de l'année. Parmi les qualités qu'un tel arbre, et c'est aussi la même image qui est employée dans Jérémie 17, et cet exemple agricole peut nous inspirer bien des qualités, bien des choses. Et parmi les qualités que peut nous inspirer un tel arbre, il y a d'abord, me semble-t-il, l'ordre. Cet arbre porte son fruit en son temps. De même que l'homme heureux, selon notre psaume, porte aussi ses fruits. Ses bons fruits, il les porte en son temps. Des fruits au bénéfice de lui-même, mais aussi de ceux qui l'entourent, au bénéfice de notre monde. L'homme heureux reste lié, dépendant au Seigneur, dépendant du Seigneur, tout comme le serment reste attaché au cep. Et c'est notre image que Jésus a employée dans l'Évangile pour dire que vous êtes à ses disciples, à nous, vous êtes les serments, moi je suis le cep de Jésus, je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est donc dans la dépendance et dans la relation avec le Seigneur que nous pouvons vraiment porter du fruit et être comme cet arbre planté auprès des cours d'eau, même lorsque nous traversons l'été, voire la sécheresse, et même parfois le désert. Tant que nous demeurons en Christ, nous pouvons porter du fruit, nous pouvons être comme cet arbre planté près d'un cours d'eau, nous pouvons être un homme heureux dont parle en effet notre psaume. La deuxième qualité que peut nous inspirer un tel arbre, c'est la fiabilité. Nous savons que nous pouvons venir au moment voulu, pendant la saison voulue, auprès de cet arbre et trouver du fruit. Nous n'allons pas être déçus, nous allons être servis. Il est fiable, il y a de la fiabilité qui se dégage lorsqu'on a un tel arbre. Nous pouvons venir avec confiance au bon moment, au moment voulu, et cueillir son fruit. C'est un arbre qui ne déçoit pas son propriétaire. L'homme heureux de notre psaume est aussi fiable, un homme fiable. Nous pouvons compter sur lui, il ne déçoit pas. Nous pouvons venir, revenir auprès de lui et être servis. Enfin, la dernière qualité qu'on peut souligner de cet arbre planté près d'un cours d'eau, c'est la régularité. La période de la récolte, il donne son fruit. Il n'y a pas de risque. Bon, il pourrait y avoir de temps en temps, mais globalement, c'est un arbre qui donne ses fruits dans la régularité. Oui, celui qui reste au cœur de la volonté de Dieu, qui vit le bonheur que le Seigneur lui donne, de vivre, qui vit dans le cadre que le Seigneur lui propose, dans la volonté que le Seigneur lui donne, cet homme-là, cette femme-là, en effet, sont des hommes, des femmes fiables, qui ne déçoivent pas, sur qui nous pouvons vraiment compter pour construire, bâtir ensemble l'Église, le peuple de Dieu, et aussi être en bénédiction pour le monde qui nous entoure. Celui qui médite la loi du Seigneur, il la met en pratique, est un arbre donc planté comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau, stable, fiable et régulier. Nous pouvons vraiment compter sur lui. Le psalmiste souligne dans les versets 4 et 5 le sort de ceux qui refusent de revenir au Seigneur, ceux qui refusent de dépendre du Seigneur, d'accepter de vivre selon le cadre qu'il nous a donné, c'est-à-dire selon son commandement. en estimant que le commandement de Dieu les priverait de quelque chose. Bien au contraire. Le psalmiste, il nous présente un tel homme, une telle femme, en utilisant une autre image agricole, là aussi. Là, par contre, il utilise l'image de la balle. La balle, c'est l'enveloppe d'un grain de blé, c'est ce qui enveloppe le grain de blé. Et souvent, les agriculteurs, pour avoir leur grain de blé, souvent ils le font très tôt le matin, lorsqu'il y a du vent, et ils jettent les grains de blé en haut, donc ils soulèvent, et puis vous avez le vent qui passe, il prend la balle, parce qu'elle est légère, elle n'a pas de poids. Et les grains descendent, et donc tombent, et le propriétaire donc sépare ainsi la balle du grain. Il souligne que vivre en rejetant le commandement de Dieu, le cadre que Dieu nous offre, c'est simplement vivre, être léger, mais léger pas dans le bon sens, hein, être léger, vraiment ne pas avoir de poids, ne pas avoir de repères. Et au verset 5, en tout cas les repères que Dieu veut offrir à l'humanité, on peut avoir d'autres repères. Et au verset 5, ceux qui rejettent la loi du Seigneur, la parole du Seigneur, sont comparés à cette balle-là. En effet, il dit clairement, le psalmiste, qu'ils ne résisteront pas ni au jour du jugement. Rien ne pourra leur permettre de se tenir debout devant le Seigneur et contester avec lui, en dehors du cadre qu'il a donné, en dehors de son commandement. Ils ne résisteront pas non plus dans la communauté des justes, dans la communauté des fidèles. Il revient maintenant à chacun de choisir, et de choisir en connaissance de cause, de ce qu'il veut faire de sa vie. Faire le choix de la dépendance de Dieu en obéissant, en écoutant et en obéissant à sa parole, ou bien faire le choix de continuer à vivre loin de la parole de Dieu, loin de son commandement, loin de son cadre, en se livrant à ses propres penchants, ou bien en construisant simplement ses propres repères sur la base des pensées diverses et variées. J'ai mentionné les philosophies, les religions, et ainsi de suite. Le psalmiste nous donne la finalité de chaque choix. Donc il nous invite à faire un choix en connaissance de cause. Il nous invite à prendre des décisions en connaissance du résultat de chaque choix. Le bonheur pour celui qui choisit de vivre avec Dieu, selon Dieu, dans l'écoute de sa voix, la perdition. En fin de compte, en fin du chemin, la perdition pour celui qui choisit de vivre loin de Dieu et loin de sa parole. Le choix de dépendre de Dieu ne se fait pas simplement le premier jour de notre conversion, au début de notre marche avec le Seigneur. C'est vrai que c'est là que tout commence. Mais il ne se fait pas simplement à ce moment-là. Mais c'est une réalité de tous les jours. C'est une vie de tous les temps. Et c'est une réalité, une vie qui peut être très exigeante, à vrai dire, malgré les apparences. Dépendre de Dieu peut être quelque chose de très exigeant. Et en particulier si nous aimons bien diriger notre vie et par moments même contrôler notre vie. Bien sûr, c'est une très bonne chose que d'organiser sa vie, sinon les autres vont s'en charger. Vaut mieux donc que chacun organise sa vie. C'est bon d'organiser sa vie. Mais en même temps, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas oublier de donner vraiment le dernier mot au Seigneur. Le dernier mot au Seigneur, si nous voulons rester toujours dans ses voies, si nous voulons vivre toujours dans ses projets qu'il nous offre. Dépendre du Seigneur, me semble, est l'une des plus belles choses qui est donnée à l'être humain de vivre, et je crois même que c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle à vivre dans la dépendance avec lui. Il aurait pu nous donner notre programme de toute notre vie, ce que nous allons vivre dès le premier jour jusqu'à la fin de notre existence. Il pouvait. Si cela allait nous rendre heureux, franchement, il l'aurait fait. Mais ce n'est pas cela qui rend l'être humain heureux. Ce qui rend heureux, c'est de dépendre de Dieu jour après jour. C'est ce qu'il a proposé à Abraham, marcher par la foi. C'est ce qu'il nous propose à tous ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. C'est la plus belle chose, vivre dans la dépendance du Seigneur. Mais en même temps, je crois vraiment que c'est l'une des choses les plus exigeantes qu'il ait donné à l'être humain de vivre. Et cela à cause de notre nature humaine, souvent très désobéissante. L'exigence de cette vie n'enlève en rien au bonheur que le Seigneur nous donne. Bien au contraire, elle permet de vivre d'une manière intense ce bonheur tant que le Seigneur nous l'accorde et nous aide à le faire. Ma prière pour chacun d'entre nous, mais pour nous tous aussi, est que personne ne se prive de ce bonheur du Seigneur et que nous soyons tous remplis vraiment de la joie d'appartenir au Seigneur, de marcher avec lui, du bonheur de le connaître. Amen.